foi et turbulence.
Alors bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay. Vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence. Nous sommes le mercredi 4 décembre 2019. Alors bienvenue à cette table ronde qui, deux fois par mois, accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité toute récente. Nos invités nous aident à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. On demande à ces spécialistes de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui parfois nous submergent. Alors, ce qui intéresse nos analystes, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Laissez-moi vous les présenter. Sabrina Di Matteo, la directrice adjointe, formation continue à la Conférence religieuse canadienne. Bonjour Sabrina.
Bonjour François.
Participe aussi à cette table ronde Mireille Dastou, doctorante bioéthique, éthique et théologie de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Et enfin, Foi et Turbulence accueille cette semaine Frédéric Barrio, responsable de la recherche et des communications au Centre Justice et Foi. Bonjour Frédéric.
Bonjour François.
Alors, cette semaine, il sera question d'une publicité du Manitoba, d'une lettre de femme décidée, d'une farce qui n'est pas vraiment drôle et d'un attentat d'il y a 30 ans. Alors, tout d'abord, rendons-nous au Manitoba. Ou même au Québec, mais pour parler du Manitoba. Alors, vous le savez probablement, le gouvernement progressiste conservateur de Brian Pallister a tenté d'attirer les Québécois au Manitoba avec une publicité en réponse à la loi sur la laïcité de l'État. La publicité, qui a été publiée entre autres notamment dans Le Devoir, présente 21 régions pour déménager au Manitoba. Pourquoi 21? Ben, c'est un petit clin d'œil à cette loi québécoise sur la laïcité qu'on appelait surtout le projet de loi numéro 21. Selon Brian Pallister, l'objectif est de montrer que le respect de la diversité existe dans la province du Manitoba. Alors, 21 raisons de se sentir chez soi au Manitoba, clamait la publicité. Le gouvernement du Manitoba reconnaît l'importance de bâtir une fonction publique exemplaire qui est représentative de la population qu'elle sert et dans laquelle les diverses capacités, expériences, cultures, identités, langues et perspectives favorisent un service de qualité et un gros degré d'innovation. Dans la publicité, il y avait aussi un numéro de téléphone et un site web pour s'enquérir des nombreux postes qui étaient offerts là-bas. Sabrina Di Matteo, ça vous a intéressé, cette publicité-là, et vous êtes allé voir les offres d'emploi?
Je suis même allée à Winnipeg, à Saint-Boniface. Non, c'est une blague. Je suis allée en avril dernier. C'est très, très, très charmant comme localité, très froid aussi. Oui, ça m'a intéressée, ça m'a intriguée. J'ai trouvé que c'était fair game comme publicité. On n'a pas à se crêper le chignon pour ça. C'est intéressant en même temps de voir que, bon, c'est de mettre de l'avant cette invitation aux personnes du Québec qui sont lésées par la loi 21 à venir là. Ça vient avec certaines contradictions sur les droits linguistiques des francophones. Mm-hmm. Parce qu'à Saint-Boniface et Winnipeg, bon, c'est là que sont la majorité des francophones, mais on parle d'environ un peu moins de 50 000 francophones dans ces localités, dont la moitié, en fait, parle anglais à la maison, selon les statistiques. Donc, ça vient poser d'autres problèmes, disons, mais c'était une publicité intéressante pour débattre un peu de l'ouverture, voilà.
Alors, c'était peut-être un petit clin d'œil que faisait le gouvernement du Manitoba au Québec, mais j'ai l'impression qu'on ne l'a pas pris comme ça, de façon aussi sympathique par le gouvernement de François Legault, là, qui était plutôt courroucé de voir ce petit clin d'œil-là, en tout cas sur la loi 21. On ne l'a pas trouvé drôle, Mireille Dastou.
Oui, bien, je pense qu'on n'est pas dupe par rapport à l'arrière-plan politique du dossier. J'ai l'impression que c'est un dossier qui s'étire, avec raison aussi, puisqu'on sait que la validité de la loi 21 va être évaluée en cours. Et j'ai l'impression que il y a comme une opération de séduction. Là, on a l'impression d'avoir la petite ou la grande séduction. Ça pourrait amener une conclusion supposément heureuse au dossier, mais on peut pas oublier l'arrière-plan là, à la fois politique et juridique derrière ça.
Oui, Frédéric Barriot, parmi les 21 raisons qu'on a nommées, nous parlons français, c'est la première raison. Pour la 11e, on parle de l'ensoleillement, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais le soleil est présent au Manitoba 316 jours par année, ce qui nous change, en tout cas, pour la température d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici à Montréal, c'est plutôt... c'est pas une journée ensoleillée, en tout cas. Mais il y avait plus que ça à l'intérieur de cette publicité-là. Allez-y, Frédéric, là-dessus.
Mais en fait, moi, c'est plutôt ce qui m'a également beaucoup choqué, évidemment, ça a été la réaction là, de certains ténors nationalistes au Québec.
La publicité vous a pas choqué, mais c'est la réaction.
Oui. Au contraire, moi, je trouvais ça... Bien, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sabrina évoquait. Il faut quand même se rappeler l'histoire, la triste histoire, donc, des franco-manitobains là, qui ont perdu leurs droits linguistiques. Et par ailleurs, il faut se rappeler que très récemment, toutes les lois qui ont été votées par le Parlement manitobain ont été invalidées parce qu'ils ne respectaient pas donc le statut bilingue quand la province a été créée à la suite donc de la première révolte des Métis sous la direction de Louis Riel. Donc, la province était à ce moment-là une province à statut bilingue. Donc,
alors, le Manitoba n'est pas un paradis.
Voilà, tout à fait. Par ailleurs, ces ténors nationalistes ont bien fait donc, de pointer du doigt, donc, dit oui. Province inclusive, mais encore. Donc, oui, la situation quand même désastreuse des peuples autochtones à Winnipeg, entre autres, mais donc dans la province, on s'est bien frotté les mains à pointer du doigt cette situation désastreuse. Sauf que, est-ce que la situation est plus reluisante au Québec? Je tiens à rappeler que tout un chapitre de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées qui est consacré au Québec. Il y a eu la commission Vient, hein, qui a aussi pointé du doigt donc des pratiques systémiques de discrimination à l'endroit des peuples autochtones. On n'a qu'à regarder la situation absolument épouvantable qui se passe au Square Cabot en ce moment, où il y a eu 9 décès de surdose, des personnes abandonnées à elles-mêmes à toutes fins utiles. Donc, je pense que le Québec devrait voir la poutre dans son œil hein, plutôt que la paille dans celle du voisin lointain.
Alors, visiblement, on ne l'a pas trouvé drôle, en tout cas à Québec. Mais tout ce que ça dit, au fond, c'est que toute la question de la loi 21, loi d'être éteinte, on était convaincu, en tout cas, le gouvernement Legault était convaincu au mois de juin, lorsqu'il a adopté le projet de loi 21 et en a fait la loi de la laïcité de l'État, que c'était terminé, qu'on venait de clore 15 ans de débat sur la laïcité et qu'on n'en parlerait plus. Mais ce que ça nous dit, c'est que c'est un sujet, en tout cas, qui est toujours à l'heure du jour. Allez-y,
Sabrina. Ça nous dit surtout que François Legault continue de croire que tous les habitants de la province appuient cette loi, ce qui n'est pas le cas. On sait que tout récemment, là, il y a le dossier en cours pour notamment des enseignantes là, portées par la coalition contre la loi 21, ou la coalition pour l'inclusion. Donc, c'est certainement, en tout cas, on voit certains présupposés de François Legault à l'égard de cette loi qui n'est pourtant pas du tout une sinécure.
Alors, il y a François Cardinal dans la presse qui dit bien, si vous aviez tant voulu clore tout ce débat-là, peut-être qu'il aurait fallu s'en tenir à ce que recommandait la commission Bouchard-Taylor et ne pas inclure justement les professeurs. Si on n'avait pas inclus les professeurs, ce serait déjà réglé probablement. On ne parlerait bien sûr que les employés qui ont un statut coercitif, là, les policiers, les avocats ou les gens qui sont dans tous ces domaines. Là, ne peuvent pas porter de signes religieux, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. Et j'ai l'impression, en tout cas, à vous entendre, que c'est un sujet dont on va encore débattre pendant les prochaines semaines. Allez-y, Sabrina.
Ben, tout repose sur notre conception de la laïcité qu'on veut se faire au Québec. Et je pense que c'est ça qui est toujours en cause. Je crois avoir vu passer une citation de M. Legault qui disait que on n'est même pas aussi strict ici qu'on l'est en France, mais notre laïcité au Québec, ce n'est pas celle de la France, ce n'est pas le même contexte et la même histoire socio-religieuse et politique. Donc, on ne peut pas faire de tels comparatifs. Il faut vraiment qu'on arrive à définir le type de laïcité ouverte qu'on veut avoir ici, toujours en se rappelant que dans la question de la loi 21, c'est l'apparence de neutralité qui est en cause.
Alors, Mireille, un dernier mot?
Oui, peut-être que la France et son passé colonialiste aussi n'est pas nécessairement le meilleur exemple dans un cas comme celui-là.
Oui, en tout cas, on n'a pas vu d'annonce de la France dans les journaux, mais ça pourrait toujours arriver. Mais enfin, je vous rappelle que le
On risque de parler un petit peu en English là-bas.
Oui, c'est ça. Le gouvernement progressiste conservateur de Brian Pallister veut attirer les Québécois au Manitoba. Il l'a fait avec une publicité en réponse à la loi sur la laïcité de l'État. C'était la semaine dernière. Alors, aussi cette semaine, dans l'actualité, l'humoriste Mike Ward devra bel et bien verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel pour avoir fait des blagues discriminatoires sur le jeune artiste, a tranché la Cour d'appel du Québec. Monsieur Ward peut-il, sous le couvert de l'humour et de la liberté d'expression, tenir n'importe quel propos? Non, l'humoriste, comme tous les citoyens du Québec, doit respecter la charte et ses valeurs fondamentales. Peut-on lire dans le jugement de 64 pages rendues publiques la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que au moins deux juges sur trois, en tout cas, étaient d'accord avec l'idée de lui verser 35 000 $ et de l'idée aussi qu'il avait perdu une partie de ses droits. Un autre juge, par contre, a eu un jugement tout à fait contraire à l'intérieur de ce jugement-là, là, qui était en appel. Alors, de son côté, Mike Ward a réagi sur Facebook rapidement. Il a assuré qu'il porterait la cause en cour suprême. « Je vous le dis tout de suite, j'aime mieux me faire de la prison que de payer cette amende-là », écrit-il, déplorant devoir payer 35 000 $ à cause d'une joke. Frédéric Barriot, c'est une farce qui n'est pas très drôle.
Pas vraiment. En fait, moi, ça m'a amené vraiment à une réflexion beaucoup plus large sur la fonction sociale de l'humour et surtout les mutations vraiment de cette fonction sociale de l'humour au Québec, mais pas seulement au Québec. Donc, rappelons-nous, hein, vraiment, il y avait un humour vraiment qui, par définition, sa fonction sociale première, c'était de dénoncer les puissants. Hein? On pointait d'abord prioritairement, on le voit dans les caricatures, c'est encore en bonne partie le cas, où on va dénoncer les autorités, soit politiques, très largement, sinon économiques, et assez souvent également religieuses, lire ici les groupes qui sont hégémoniques dans la société, donc évidemment le catholicisme qui était l'une des cibles de choix. Depuis les années 80-90, on voit quelque chose comme un déplacement. On n'est plus de l'époque, je pense, d'un humour à la Yvon Deschamps ou d'un humour comme celui des cyniques ou
ça
encore...
Ça traduit votre âge.
Finalement. Ça se déplace, donc, hein, des dominants aux dominés. Donc, et là, il y a quelque chose de proprement inquiétant. Il y a eu quelques années où on était dans l'humour banal du quotidien, moi et ma blonde et moi, mon frère, mon beau-frère, mais là, ça se déplace. C'est vraiment ce genre d'humour-là qui soit iconoclaste, ça me pose pas du tout problème. Mais quand il cible justement les plus vulnérables ici, donc les sans-voix, hein, les sans-voix, ce n'est pas sans me rappeler, bien entendu, ce que font en bonne partie certains animateurs de radio, radio parlée, hein, où c'est principalement qui, hein, les faibles. Les personnes pauvres, les femmes,
et sociales,
et voilà. Donc, à mon avis, il y a quelque chose ici. Oui. On comprend finalement que c'est là où la ligne, elle est franchie, à mon sens. On a un devoir de solidarité avec les personnes. Et donc, et ce genre d'humour-là, moi, personnellement, non seulement ne me fait pas rire, mais en même temps, c'est la réponse finalement des sans-voix.
Mais le problème, est-ce que c'est pas qu'une cour de justice discute moins de liberté d'expression que de la portée de l'humour? Est-ce que c'est le rôle d'un juge de discuter de l'humour? Allez-y, Mireille, là-dessus.
Bien, la portée de l'humour, je pense que c'est un sujet qui devrait, oui, être à la fois juridique, être un sujet mis sur la table, je pense, en éthique aussi. Je pense qu'on est dans des espaces sociaux où on aime transgresser, effectivement, des espaces sociaux peu régulés. Mais est-ce que ça justifie que ces espaces sociaux-là deviennent des lieux où il y a de multiples formes de violence, oui, il faut le dire, des manques de respect assez profonds, des propos discriminatoires qui deviennent courants, monnaie courante. Moi, je m'intéresse de plus en plus à des études où on s'intéresse aux impacts des paroles de type micro-agression, micro-insulte, micro-invalidation sur des personnes qui deviennent des victimes, en fait, de tels propos.
Alors, Sabrina Di Matteo, quand on entend, par exemple, Mike Ward dire que le petit Jérémy est laid, qu'il est prétendument mourant, mais qu'il n'est pas tuable, quand il se moque d'une malformation physique du jeune chanteur ou et aussi de son implant auditif, c'est certainement pas drôle. En tout cas, c'est pas de l'humour, mais est-ce que c'est le rôle de la cour d'aller vérifier si c'est un bon humour ou non?
Je pense que malheureusement, oui, jusqu'à un certain point, s'il faut en arriver à en débattre en cours, faisons-le, parce que qu'est-ce que ça dit de nous, de notre conception de la liberté d'expression, qu'on doive se moquer du handicap de quelqu'un pour avoir du plaisir et pour faire de l'entertainment. Ça m'a porté à réfléchir particulièrement à pourquoi... Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés avec les différences crânio-faciales, par exemple? Oui. Est-ce que Mike Ward aurait fait la même chose avec quelqu'un atteint de paralysie cérébrale ou quelqu'un de trisomique? Il y a quelque chose au niveau du visage, de notre rapport à l'autre, du fait d'entrer en relation avec quelqu'un dont les traits sont sensiblement très différents et déformés, dans ce cas-ci, dans le cas de Jérémy Gabriel, par le syndrome de Treacher-Collins qui cause donc des malformations au niveau auditive, au niveau de la formation de la mâchoire, et ainsi de suite, au niveau des yeux, de la forme des paupières. Je trouve que c'est... Je suis désolée, pour moi, c'est juste simplement de mauvais goût. Et dire que c'est de l'humour noir ou que c'est de l'absurde, ça n'excuse rien. Et je me dis, mais... comment ça se fait qu'on n'est pas capable, et ça nous interpelle tous, notre façon d'entrer en relation avec des personnes avec un handicap visible, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'aller au-delà de ce qu'on voit? Et de penser, il faut penser aux années et à la multitude d'opérations, par exemple, que Jérémy Gabriel et d'autres personnes atteintes de ce syndrome ont enduré pour pouvoir justement avoir un implant pour améliorer son ouïe. Voilà, c'est des battants. Ils méritent absolument notre respect et notre compréhension. Puis, on n'a pas fini de faire du chemin dans cette sensibilisation-là. D'ailleurs, en septembre, c'était la 15e année où le mois de septembre était le mois de la sensibilisation à la différence crânio-faciale. J'ai quelques amis qui ont ça dans leur famille. C'est émouvant de suivre ce qu'ils vivent, ce que un bébé qui vient de naître dans la famille, qui porte le syndrome, vit. Donc, pour moi, c'est tout notre respect. Puis, pourquoi est-ce que, encore une fois, des personnes atteintes de ce handicap, on permettrait ça? Est-ce qu'on ferait la même chose s'il s'agissait de quelqu'un de quelqu'un de juif ou musulman? Bon, voilà, c'est un débat certainement qui n'est pas terminé. Puis j'ajouterais à ça, ça vient aussi nous révéler toute la conséquence en termes de cyber-intimidation qui échappe elle-même à Mike Ward, qui a bien dit qu'il ne souhaitait pas que ça aille jusque-là, mais il en est quand même responsable. Et il y a la députée de Québec solidaire à Sherbrooke, Christine Labrie, qui, la semaine dernière, a fait lecture à l'Assemblée nationale des commentaires que d'autres femmes politiciennes reçoivent dans les réseaux sociaux, et c'est simplement dégoûtant.
Oui. Justement, je voulais parler de ça à ce moment-ci parce que c'est hier, là, c'est la journaliste Isabelle Haché de La Presse qui expliquait que depuis sa victoire en cour d'appel contre l'humoriste Mike Warren, Jérémy Gabriel a reçu des centaines de messages haineux dans sa boîte vocale, dans sa boîte de courrier électronique. Il s'est fait traiter de petit rat, de chihuahua trisomique et de d'autres termes que je ne peux même pas prononcer ici à la radio. Il faut lire l'article d'Isabelle Haché dans La Presse. Il y a quelque chose qui va trop loin là, ici. Là. Non seulement vous avez quelqu'un qui présente, qui fait partie d'un débat, en tout cas juridique, mais là, qui est particulièrement attaqué là, directement dans sa propre maison, tout ça, c'est dérangeant d'apprendre ça ici.
Et ça nous ramène à la question du juridique ici. Donc, On part ici au point de départ d'une très mauvaise blague, mais l'effet démultiplicateur des médias sociaux, ça nous pose la question de l'incitation à la haine. Mm-hmm. Parce que c'est de ça, c'est à ça qu'on est exposé finalement. Donc, des voix ici, donc celles de ces gens qui appuient finalement et qui tiennent ce genre de discours-là, des voix qui étaient jusque-là inaudibles, hein, c'est des propos qui se tenaient à la taverne ou dans l'espace privé à la limite, mm-hmm. mais donc ces propos-là finalement qui sont envoyés dans tout le cyberespace, il y a un effet démultiplicateur et ça libère aussi vraiment la mentalité de bande, hein, ce qu'on observe aussi, y compris quand il s'agit de femmes, politiciennes ou de femmes point à la ligne, hein, c'est que voilà, c'est une mentalité de bully où plusieurs se mettent ensemble pour dénigrer une espèce de surenchère. Et c'est là vraiment que la pente savonneuse ici, elle est, et l'engrenage est enclenché.
Oui, oui. Et on comprend que la Cour suprême du Canada ne se penchera pas là, sur justement tous ces propos haineux là, que reçoit le jeune Jérémy Gabriel. Là. Mais on ne parle pas ici de nécessairement de propos haineux qui ont été tenus là, par l'humoriste. En tout cas, ce n'est pas ce qui est en cause à l'intérieur de ça. Mais il reste que c'est particulièrement troublant là, dans arrivé là, Mireille.
Oui, c'est un phénomène qui est de plus en plus étudié, les propos haineux, notamment sur les médias sociaux. J'ai vu passer des documents de réflexion assez étayés, de plusieurs centaines de pages sur la question. Moi, je me questionne beaucoup comment on en est venu en tant que société à dénigrer ce qui précisément devrait être protégé. On dirait qu'il y a comme une inversion, il y a comme une perte je sais pas si sens moral, c'est trop lourd là, à dire.
Oui, oui.
Mais oui, il y a comme une perte quelque part. Je pense que Sabrina le disait tout à l'heure, plutôt que de souligner le courage, toutes les difficultés, la grande, grande vulnérabilité de personnes malades, on vient qu'à les ridiculiser, à encourager des formes de harcèlement psychologique. Effectivement, comme le dit Frédéric, il y a un effet de groupe aussi qui se manifeste notamment dans les médias sociaux. Moi, ça me questionne beaucoup. Je me demande comment prévenir. Est-ce que ça devrait être des réflexions justement dans les cours d'éthique et culture religieuse? Est-ce qu'on devrait axer l'enseignement même au collège ou avoir davantage de politiques pour prévenir ces comportements-là?
Oui, alors écoutez, c'est un débat en tout cas qui va se poursuivre, j'ai l'impression, hein, tout ça. Sans prendre nécessairement parti à l'intérieur de ce débat-là, on peut saluer le fait que Jérémy Gabriel a dit tout de suite après l'annonce que ça allait en Cour suprême, tant mieux, on va aller plus loin dans ce débat-là. Et malgré tous les messages haineux qu'il a pu recevoir, le jeune homme en tout cas tient à aller au fond des choses. Alors, on en reparlera certainement. Alors, je vous rappelle que l'humoriste Mike Ward devra bel et bien verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel pour avoir fait des blagues discriminatoires sur le jeune artiste. Il a décidé d'aller en Cour suprême pour porter appel. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle que les gens qui sont avec nous aujourd'hui, Sabrina Di Matteo de la Conférence religieuse canadienne, Mireille Dastou, doctorante à la Faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval, et Frédéric Barriot du Centre Justice et Foi. Alors, parlons d'un sujet un peu épineux, en tout cas, qui a fait la une particulièrement cette semaine là, dans les cercles religieux. Un organisme haïtien de soutien aux femmes fondé par des religieuses québécoises et se dit exaspéré par des demandes répétées de la Conférence des évêques catholiques du Canada qui veut savoir s'il est oui ou non en faveur de la légalisation de l'avortement en Haïti. Femmes décidées, c'est le nom du groupe, est l'un des 52 partenaires de développement EPEC qui ne recevra plus de financement de l'organisme tant que la Conférence des évêques catholiques du Canada n'aura pas obtenu l'assurance que le groupe respecte l'enseignement moral de l'Église catholique. Il y a une semaine, donc, M. Serge Langlois, le directeur général de développement EPEC, acheminait à Marie-Ange Noël, la coordonnatrice de Femmes décidées, une lettre qui lui disait que malgré toutes les clarifications fournies à plusieurs reprises par l'organisme à la Conférence des évêques, des préoccupations persistent toujours aux yeux de la CECC, la Conférence des évêques catholiques du Canada, sur Femmes décidées. Alors, et voici le bout de la lettre là, qui a fait sauter bien des gens. La CECC vous demande de répondre par oui ou par non à la question suivante. Pour éviter toute confusion, quand vous dites que Femme décidée n'a jamais supporté ou encouragé les pratiques visant l'avortement, est-ce que cela signifie que vous n'appuyez pas la légalisation de l'avortement en Haïti? Vous devez répondre par oui ou non à cette question et cela va déterminer si vous devez recevoir des sous ou non, ou si vous allez recevoir des sous ou non pour votre groupe. Alors, juste pour vous dire que la coordonnatrice Marie-Ange Noël a refusé, elle, de répondre par un simple oui ou non. Elle a plutôt envoyé une longue lettre à Développement et Paix dans laquelle elle rappelle que ce qui occupe notre quotidien appartient au monde du réel et ne relève pas de spéculations ou d'hypothèses vaines. L'accompagnement de femmes victimes de viols, d'inceste, enceintes parfois, ne nous laisse pas le temps de spéculer. Quand ces femmes et filles vulnérables arrivent à notre centre d'hébergement, elles ne nous demandent pas de les aider à se faire avorter. Mireille Dastou, c'est plutôt troublant, en tout cas, comme lettre qui est envoyée, et vous avez pu la voir, là, cette lettre-là.
Oui, effectivement, je suis non seulement troublée, mais heurtée personnellement par la position de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Je trouve que on frôle des abus de pouvoir où on veut comme un peu coincer quelqu'un avec la fameuse question, comme vous dites, le répondez par oui ou par non. Selon moi, ça reflète aussi une forme de morale binaire. On est incapable, en fait, de penser des nuances. On est incapable de penser les contextes. On est incapable de se référer à des éthiques plus sociales ou même des formes de théologie pratique. Alors, moi, j'ai lu des réponses qui viennent de différents groupes ici au Québec. Et, bon, la critique est quand même très forte envers la Conférence des évêques catholiques du Canada. Je vous cite, là, ici, il y a une position qui dit « On parle d'un procédé inquisitorial ». Qui peut être associé à une forme de paternalisme ou peut-être même à une forme de violence institutionnelle. On parle de frôler l'intégrisme doctrinal. Au contraire, du côté des théologies féministes, on a toujours prôné un renversement de l'autorité où on parle de donner la parole aux femmes. Et donc, les femmes haïtiennes ici, en fait, et les femmes qui se dévouent à ces femmes haïtiennes qui sont elles-mêmes dans des fragilités, des vulnérabilités, des situations de pauvreté, etc.
Alors, Frédéric Barriot, quand on regarde tout ça, on comprend qu'un organisme qui doit financer des groupes doit faire enquête. Il doit vérifier que l'argent se rend bien. Il doit vérifier que ça sert bien ceux qui sont en besoin. Et on sait de toute façon que Femmes décidées n'est pas un groupe là, qui fait des avortements à l'intérieur de son local. C'est un centre d'hébergement pour des femmes et des fillettes qui sont victimes de violences, qui sont victimes de viols et qui les accompagnent. Tout ça. Alors, comment on doit comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de ça? C'est pas juste une lettre, là. C'est pas juste des sous là, qui sont en arrière de ça. Allez-y, Frédéric.
Ben effectivement, ça nous dit quand même quelque chose aussi sur... moi, j'ajouterais même, je pense que c'est Suzanne Loisel hein, qui le disait, quelque chose de...
Une religieuse, OK, qu'on entend souvent à Faut être
turbulent. Chose aussi de néocolonialiste là-dedans, parce qu'il faut quand même le dire, hein, l'évêque catholique de Jacmel, finalement... a donné son plein et entier appui finalement au travail que fait. Donc on est bien conscient ici qu'un travail de reconstruction, de résilience extrêmement fort qui est effectué. Mais donc voilà, c'est les évêques catholiques du Canada, les bailleurs de fonds finalement, et par ailleurs, dans le cadre d'une théologie morale vraiment que moi je considère vraiment complètement décroché de la réalité, là, décroché de la réalité où on part de catégories. Trajectoire ici. Quand j'étais étudiant en histoire, je m'étais intéressé à une figure assez marquante de la théologie morale, Saint Alphonse de Liguori, hein, le fondateur
des rédemptoristes,
hein, rédemptoriste, qui avait été formé à la vieille école rigoriste, hein, où tout était relativement clair, hein, sur le bien et le mal, sur le licite et l'illicite. Hein. commence au ministère et dit « ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas ». Donc, ce sont des êtres humains en chair et en os, finalement, qui doivent délibérer dans leur fort intérieur, donc tenter d'accomplir avec le plus grand avec le plus grand effort possible, donc la volonté de Dieu ici-bas sur terre, bien entendu. Donc, sont contraints finalement. Donc, faut accueillir la personne humaine justement dans sa complexité, dans sa fragilité. Donc, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre à des questions morales comme celle-là tout en rejetant ce qui est fondamentalement mauvais et intrinsèquement mauvais. Mais quand même, on ne peut pas finalement ne pas tenir compte du contexte, donc de l'épaisseur humaine. Donc, comment peut-on répondre à une question comme celle-là par un simple oui ou par un simple non? Donc, il y a une espèce, il faut prendre conscience justement du large spectre de ce qu'on appelle la sacralité de la vie et combien de vies sont sauvées par un organisme comme celui-là. C'est ça qui est l'enjeu fondamental. Donc, si on retire le financement, par ailleurs, comme on menaçait de le faire avec Padre Mello. Hein?
Un jésuite, voilà. Oui.
Donc, il y a des vies qui sont en jeu ici. Donc, quelle est notre définition, finalement, de ce qu'est la sacralité de la vie et quelle vie on va véritablement sauver? Donc, à mon avis, c'est là que loge le cœur du débat.
Alors, on a demandé à Marie-Ange Noël de répondre par un oui et par un non. Elle est allée avec une longue lettre qui est presque... vous l'avez lu, Sabrina. On a l'impression même qu'elle donne un petit cours de théologie là, aux évêques, là, en leur rappelant c'est quoi l'enseignement social de l'Église.
Exactement. Moi, ça, toute cette saga qui dure depuis longtemps entre Développement et paix et la Conférence épiscopale canadienne, dans cette nouvelle, suite à cette lettre de Marie-Ange, justement, qui traite carrément d'acharnement ce qui est en train de se passer. Oui. Elle a répondu plusieurs fois. Moi, les questions qui me viennent, c'est quand on parle de la CECC et des questions qui sont posées, est-ce que ce sont tous les évêques qui sont dans la collégialité vis-à-vis ces questions-là? Est-ce que vraiment il y a une personne au sein de l'exécutif des évêques canadiens qui est mandatée, mais au nom de tous et en connaissance de cause de la part de tous pour s'acharner comme cela via Développement et paix sur un organisme?
Demander.
Et pourrait peut-être répondre. Parce que voilà, je pense que si on demandait à chaque évêque individuellement de se prononcer là-dessus, peut-être qu'on aurait quelques zones grises et qui seraient peut-être saines pour le débat. Ensuite, je me questionne sur dans ce questionnement. J'allais faire une mauvaise blague, oui. C'est presque référendaire. Oui ou non, mais on ne comprend pas trop la question.
Oui, oui.
Dans cette question posée à Femmes décidées, il y a une adéquation qui est faite entre une position politique de l'organisme et ce que fait concrètement au quotidien dans ses actions et dans sa mission l'organisme. On ne peut pas faire cet amalgame-là pour décider du financement d'un organisme et c'est se mettre des œillères totalement que de ne voir qu'à travers ce spectre binaire, comme disait Mireille, de l'avortement, alors que c'est tellement une problématique complexe où il y a tellement de sujets, de problèmes à traiter. Je veux dire, si on parle de jeunes filles et ensuite de femmes qui sont violées, abusées, c'est parce qu'il y a des abuseurs. Donc, il y a des questions d'éducation familiale, scolaire. Ça touche à la question de la pauvreté. Voilà, c'est tellement plus que comment est-ce qu'on gère la conséquence par avortement ou pas par avortement, puis qu'est-ce qu'on en pense au niveau politique d'un pays qui est si pauvre, qui est en révolte et dont on ne parle même plus dans nos médias nord-occidentaux. Et finalement, pour moi, il y a aussi la question de ce glissement de plus en plus fort vers un soutien qui est enraciné dans une idéologie. Et je crois que c'était il y a à peu près une dizaine de jours, on a vu que les évêques américains en assemblée plénière ont publié leurs priorités. Et pour eux, malgré tout ce qui se passe de polarisation, de problématiques aux États-Unis, leurs priorités demeurent l'éradication de l'avortement.
Mm-hmm. C'était la priorité numéro un, là.
Voilà.
Au-delà de toutes les autres.
Je crois qu'on est en train d'assister à un glissement possible comme ça de notre côté aussi.
OK. Allons-y un peu plus loin. Immédiatement après que Média ait publié cette lettre-là de Marie-Ange Noël, on a eu des communautés religieuses qui ont décidé de prendre la parole. Des religieuses, des religieux ont décidé de dire tout haut et fort là, ce qui passait de cette lettre-là, de ce procédé inquisitorial, on même dit certains. J'aimerais ça vous entendre parler davantage. Mireille Dastou, vous avez lu la lettre de L'Autre Parole, un collectif de femmes féministes. C'était probablement la lettre la plus forte. Là, hein. On parle de néocolonialisme, on parle de misogynie, on parle d'intimidation, de racisme institutionnel même à l'intérieur de ce texte-là. C'était assez fort quand même. Allez-y là-dessus.
Oui, en fait, moi, la première réaction que j'ai vue venait, comme vous disiez, des communautés religieuses de l'Institut des Sœurs du Bon Conseil.
Qui ont fondé Femmes Décidées.
Exact. Et ensuite de ça, effectivement, comme vous dites, là, il y a eu une publication qui est disponible présentement sur Internet de la collective L'Autre Parole. C'est une collective qui se donne justement la possibilité en étant, on pourrait dire, un peu en marge de l'institution, de prendre la parole très librement. Donc, c'est une des forces de cette collective qui se définit comme chrétienne et féministe, de pouvoir faire ses propres analyses. Et vous l'avez bien dit, là, la position de L'Autre Parole est très sévère de la position de ce qui se passe. Et il y a même une dénonciation, je dirais, de ce qui se passe à Développement Épais, comme si on avait de la difficulté à résister, en fait, à l'autorité. Comme je le disais tout à l'heure, me semble ici dans une dynamique potentiellement d'abus de pouvoir. Je pense qu'il faut faire des analyses de fond aussi. Sabrina le disait tantôt, il y a un phénomène de pauvreté et quand on s'intéresse à la pauvreté, mais du côté des femmes, on réalise qu'il y a une très forte corrélation entre pauvreté et violence sexuelle. Alors, si on veut s'occuper des femmes pauvres, il va falloir aussi regarder que ces femmes-là ont souvent déjà été victimes de violences sexuelles. Et là, on n'est jamais dans des solutions simples ici.
Alors, j'ai l'impression que ce que vous nous dites, c'est que c'est le genre de situation qu'on ne peut pas répondre par un oui ou par un non. Alors, c'est la réponse, en tout cas, que donnait L'Autre Parole. Sabrina Di Matteo, on a vu aussi plusieurs communautés religieuses, particulièrement féminines, réagir, certaines de façon individuelle, d'autres de façon collective. C'est le cas des Sœurs du Bon Conseil, la congrégation religieuse qui s'occupe beaucoup de travail social là, au Québec et qui a fondé ou qui était participé à la fondation de Femmes Décidées, il y a, je dois le dire aussi, il y a 30 ans, là, aujourd'hui ou cette année. Alors, un 30e anniversaire qui est célébré dans une certaine controverse. Mais est-ce que c'est nouveau, ça, que des communautés religieuses décident de prendre la parole publiquement ou, en tout cas, dans un cas aussi fort?
Non, j'ai vraiment le privilège de travailler depuis plusieurs mois maintenant au sein de la Conférence religieuse canadienne et donc de côtoyer la majorité de nos membres à la Conférence religieuse canadienne, 70%, ce sont des communautés féminines. Donc, voilà, de côtoyer des personnes comme Gisèle Turcot, qui est la supérieure de l'Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Je pense à Pierrette Bertrand aussi, qui est présidente de l'Association des religieuses pour les droits des femmes, qui rassemble pas loin de 40 communautés membres.
Et qui a aussi réagi à cette histoire.
Justement, en disant là, qu'elles sont profondément choquées du manque de foi, de confiance vis-à-vis le témoignage de la coordonnatrice de Femmes Décidées. C'est encore là, je trouve que moi, ça me choque. On ne fait pas confiance à une femme qui est en autorité, qui exerce un leadership dans des conditions que, franchement, on enverrait quelques évêques peut-être essayer de faire ça à sa place. Peut-être qu'ils reviendraient avec un autre regard sur la situation. On réitère dans le communiqué de la RDF l'engagement envers ces femmes appauvries et violentées qui n'ont pas d'autre recours que ce centre pour retrouver un sens à leur vie. Donc, Oui, absolument. C'est tant mieux que ces femmes-là, que ces religieuses prennent position. Elles ont été, de par leur mission, leur charisme, très souvent engagées dans des pays pauvres ou ici dans l'éducation et les soins de santé. Elles savent de première main ce que ça veut dire de gérer des organismes comme ça qui viennent en aide à des personnes fragilisées, dans ce cas-ci des femmes et des fillettes. Tout ça, pour moi, me fait aussi questionner la notion de subsidiarité et son respect par les évêques, jusqu'à un certain point par Développement EPEC, qui évidemment se fait le relais des évêques dans ses vérifications.
Alors, la subsidiarité, là, c'est l'idée de réagir à une situation par le plus proche échelon.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire, et donc, dans ce cas-ci, l'organisme Femmes décidées à Jacmel est le mieux placé pour gérer selon sa connaissance, son expertise du milieu, comment il gère ses fonds, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est le mieux pour sa clientèle, pour ainsi dire. Mm-hmm. Sinon, effectivement, on tombe dans un certain néocolonialisme, mais essentiellement, moi, je reviens à cette notion de la subsidiarité. Néocolonialisme, c'est une autre grille de lecture, mais la subsidiarité, elle nous vient de toute cette tradition de la doctrine sociale de l'Église, depuis l'encyclique Rerum Novarum, et particulièrement l'encyclique de Paul VI en 1967, qui est le fondement de la fondation même de Caritas, de Développement EPEC, donc en 67 aussi, sur le progrès des peuples, et qui assoit cette notion que c'est à nous de déléguer la responsabilité des décisions à ceux qui sont le plus proches. Et là, cette ingérence épiscopale, eh bien, elle ne respecte pas ça, tout simplement.
Alors, il y a parmi les groupes là, qui ont réagi et qui ont appelé à Développement EPEC à sortir de son immobilisme, là, il y a les jésuites. Et vous êtes du Centre Justice et Foi, une œuvre jésuite, Frédéric Barriot. C'était aussi une lettre forte à l'intérieur de ça. Mais il y a une phrase qui m'a particulièrement impressionné, c'est qu'on a parlé de collégialité entre les évêques. J'aimerais ça que vous reveniez encore là-dessus. Le supérieur des jésuites du Canada dit aux évêques, faites attention, là, il faut respecter les évêques du Sud là, à l'intérieur de ça.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, si d'entrée de jeu, donc, pour l'évêque de Jacmel, donc, est solidaire, donc, et on pourrait le demander finalement, est-ce qu'on a ne serait-ce que consulté la conférence des évêques d'Haïti?
Oui.
En définitive, eux sont beaucoup mieux placés que nous, du Nord, bien entendu, qu'on soit le bailleur de fonds, soit quand même. Mais il n'empêche qu'effectivement, il faut respecter justement cette autonomie locale et donc même, que l'Église haïtienne, justement, ait voix au chapitre.
Et malheureusement, malgré tous les efforts des médias pour obtenir une réaction de la conférence des évêques catholiques du Canada et de Développement EPEC, on a obtenu un silence. Donc, on ne sait toujours pas si Femmes décidées va recevoir son financement. On ne sait pas si, selon Développement EPEC ou la Conférence des évêques, Marie-Ange Noël a bien répondu à la question qu'on lui a envoyée. Alors, c'est un sujet, j'imagine, qu'on va reparler. Alors, je vous rappelle que le 6 décembre 1989, un homme armé a assassiné 14 femmes, 12 étudiantes en ingénierie, une étudiante infirmière et une employée, et a blessé 13 autres personnes à l'École polytechnique de Montréal. C'était le 6 décembre, c'était il y a 30 ans. Cet attentat antiféministe qui a ébranlé le pays tout entier et qui a connu un fort retentissement à l'extérieur du Canada demeure encore aujourd'hui incompréhensible. C'est toujours difficile, Sabrina, de reparler de cet événement-là. C'est un événement qui a laissé des traces et qui nous bouleverse encore aujourd'hui.
Oui, en fait, moi, je réfléchissais à ça. J'avais 7 ans quand c'est arrivé. J'en ai un souvenir un peu vague, mais effectivement, je me souviens très bien quand même de des années suivantes, à force de le rappeler, de faire ce devoir de mémoire, que ça s'est vraiment, c'est devenu pour moi un souvenir qu'il faut garder, sur lequel il faut travailler, il faut analyser. Et 30 ans après, et ça a pris 30 ans finalement pour qu'on arrive publiquement dans diverses instances à dire que c'était un féminicide, que ces femmes-là, elles ont vraiment été assassinées parce qu'elles prenaient leur place dans un champ d'études essentiellement ou pratiquement masculin jusque-là, et que ça faisait partie ou si c'était là peut-être la seule motivation du tueur. Donc, je trouve que 30 ans après qu'on arrive à dire ça, c'est un grand pas qu'on le reconnaisse, parce qu'on constate aussi que sur d'autres cas de violence envers les femmes, on a de la difficulté encore à nommer ce que c'est vraiment. On a vu des cas récemment de violence conjugale où une femme, la conjointe a été tuée, et puis on minimise, on banalise dans notre façon médiatiquement de nommer les choses. Alors, il faut utiliser les vrais mots et d'arriver à dire que c'était un féminicide. C'est un grand pas. Voilà, pour le moment, moi, en tout cas, je reste très émue là, à penser à cet anniversaire qui arrive vendredi.
Ben oui, toujours beaucoup d'émotions aussi, Mireille, pour un événement. Et c'est important de faire mémoire, en tout cas. C'est ce qu'on fait chaque année et on le fait encore davantage pour ce 30e anniversaire.
Effectivement, faire mémoire, je pense qu'il faut aussi voir le traumatisme collectif, toutes les victimes secondaires d'un tel événement, qu'on parle de peur, de sentiment de dangerosité. J'ai lu une analyse où on disait que ce n'était pas seulement de la violence contre les femmes, puisque quand on lit le manifeste de Marc Lépine, en fait, c'était une violence contre les féministes. Donc ça veut dire que les femmes qui décident de s'engager, de s'impliquer dans un mouvement visant la défense de leurs droits, ce mouvement-là, en fait, devrait être dans le registre de la fierté, de la capacité à s'organiser, à vouloir changer le monde positivement en faveur des femmes. Et c'est ça qu'on a visé, qu'on a attaqué d'une manière justement haineuse et violente. Et ça, je pense que c'est encore présent dans notre culture, ces attaques envers les féministes. Il faut se questionner, là, ici, sur la profondeur de la violence, ici, contre les femmes, mais contre le mouvement féministe aussi.
Alors, je vous rappelle que vendredi, entre autres, il y a José Boileau, l'ex-rédactrice en chef du journal de Le Voir, qui a été longtemps ici chroniqueuse à Radio-VM, va publier un livre intitulé « Ce jour-là, parce qu'elles étaient des femmes ». C'est un vibrant hommage aux victimes souvent oubliées. On va se demander qui étaient ces 14 femmes. Et surtout, que serait-elle devenue aujourd'hui, 30 ans plus tard? C'est aussi émouvant pour les hommes, Frédéric Barriot, de parler de ces événements-là.
Chaque génération a vraiment une date butoir, vraiment, donc qui a marqué leur imaginaire collectif. Probablement que le baby boomer, ça a été l'assassinat de John F. Kennedy, exemple. Pour la mienne, je suis né en 1972, je peux vraiment dire où j'étais et ce qui s'est passé précisément dans cette journée-là. C'est vraiment une date pour moi fondamentale. Donc, je suis ici de cette génération qui a grandi avec le féminisme, qui a grandi avec des femmes fortes, hein, qui a jamais été intimidée par la présence de femmes fortes et qui croyait même déjà tout jeune que c'était ça l'horizon dans lequel on se dirigeait en tant que nation, en tant que pays, en tant que peuple. Eh bien non. Cette date-là, finalement, nous a révélé précisément le contraire. Et soyons clairs ici, là, sans faire de mauvais jeu de mots, l'horizon n'était pas parfaitement rose. On s'en va très bien entendu que de nombreuses oppressions, et par ailleurs, ces oppressions-là n'ont pas disparu de notre écran radar. Hein. L'an dernier, à l'occasion du 8 mars, une statistique, vraiment, un féminicide à tous les 2,5 jours au Canada. Donc, on est tout à fait encore dans cet horizon-là. Mm-hmm. Mais on aimait croire, bien entendu, que le modèle de masculinité était en train d'évoluer. Hein. On était la génération de aussi qui avait grandi avec les livres de Guy Corneau, enfin, où une nouvelle masculinité tentait peut-être d'émerger. Donc, il est clair que le traumatisme est aussi présent chez les hommes de ma génération que probablement chez l'ensemble des Québécois et des Québécois.
Alors, tous les cercles de la société vont faire mémoire, en tout cas, ce 6 décembre-là, vendredi prochain. Je vous rappelle que même l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a publié, a profité de cet événement-là pour publier une déclaration qui s'appelle « Se souvenir pour mieux agir ». Ça nous invite à une prise de responsabilité individuelle et collective face à la persistance de la violence 30 ans après l'assassinat des femmes de l'école polytechnique. Sabrina Di Matteo, c'est important de faire ce genre de déclaration-là?
Absolument. En fait, c'est moi qui j'ai contribué à écrire cette déclaration en tant que membre du Conseil Église et Société, dont fait partie aussi Frédéric Barriot, qui est au micro. Et ça fait plusieurs mois qu'on réfléchissait sur la question sur ce thème qu'on pourrait dire de violence en héritage. Et ça, c'était une référence à une recherche que l'Assemblée des évêques du Québec avait menée en 89, qui avait donné lieu à une publication qui s'appelait « Violence en héritage, réflexion pastorale sur la violence conjugale ». Et le contexte faisait en sorte que ce 30e de la tuerie de Polytechnique convergeait aussi avec cette réflexion qui était extrêmement bien documentée. Et là, on s'est dit qu'il fallait... Il fallait pouvoir prolonger cette réflexion, la mettre à jour dans le contexte d'une déclaration qui nous permet de constater que voilà, les violences dépassent, les violences envers les femmes dépassent la sphère conjugale. Elles sont multiples. Ces champs se sont diversifiés. Qu'on parle de cyberintimidation, d'exploitation sexuelle, de traite humaine interne et internationale. Et puis ça, c'est devenu cette déclaration l'occasion de jeter aussi un regard sur des femmes qui ont été dont la violence qu'elles ont expérimentée a été passée sous silence. Donc on pensait aux femmes autochtones disparues et assassinées dans le cadre du rapport final de l'enquête nationale qui a été faite dans les derniers mois de ces appels à la justice. Et puis c'est aussi était l'occasion, dans cette déclaration, de porter un regard sur nous-mêmes, comme institution religieuse, en se rappelant que Jésus-Christ lui-même a vécu cette violence ultime de la peine capitale et que, voilà, si nous croyons qu'on doit combattre la violence, c'est en son nom, parce que lui-même était un non-violent. Et donc, ça nous amène aussi à regarder notre Église et sa part de responsabilité dans les abus, évidemment sexuels, entre autres, mais aussi sur une interpellation qu'on peut continuer de mettre de l'avant sur le rôle et la place qu'on donne aux femmes en Église.
Alors, justement, parlons-en avec Frédéric Barriot. Vous avez aussi participé à la rédaction, ou en tout cas à l'approbation de ce texte-là, comme étant membre là, du Conseil Église et Société de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Un des paragraphes nous invite à porter un regard sur l'institution religieuse qui nous rassemble. Nous sommes conscients et conscientes que notre Église a contribué à la violence subie par diverses personnes, ici et ailleurs. C'est aussi le constat qui est important de faire, là, 30 ans plus tard.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que le mot, on l'a profondément dit plusieurs fois à ce micro, là, la question du cléricalisme ici, bien entendu, oui. Mérite là, doit être posée plus encore. Donc, dans le contexte plus large, bien entendu, où, voilà, il y a une parole qui se libère à juste titre. Et donc, de ce point de vue-là, bien entendu, la mise en examen et la critique du cléricalisme, mais aussi tout ce que a facilité finalement ce cléricalisme-là, donc nous ouvre à cette... Et je pense qu'en tant qu'homme allié, donc des féministes, que ce soit en Église ou que ce soit dans la société, dans son ensemble, mais bien sûr, je suis tout à fait conscient des très nombreux privilèges qui sont les miens en tant qu'homme, hein, en tant qu'homme hétérosexuel, en tant qu'homme blanc hétérosexuel. Donc, pour toutes ces raisons-là, bien entendu, il y a une volonté justement d'inverser cette hiérarchie-là, donc, et déconstruire ce qui doit être dit, c'est-à-dire une masculinité toxique, hein? Une masculinité toxique où finalement l'homme, le mâle, dans sa position dominante, n'accepte pas finalement de devoir partager. Donc, devoir partager son pouvoir. Je peux faire écho vraiment à la dynamique de travail qui a conduit à l'adoption de ce document-là, de fait, bien entendu. Donc, ça a été dans une dynamique de vraie collégialité ici où essentiellement vraiment les voix qu'on voulait mettre de l'avant, c'était celles d'abord et avant tout de nos consœurs chrétiens. Nous, on était là, on a fait des commentaires de fond, mais plutôt sur la forme, mais d'abord et avant tout, on était là en solidarité première, vraiment, pour que cette parole, hein, il est quand même assez symptomatique que les deux porte-parole, justement, de ce document-là sont deux femmes et deux femmes féministes connues en Église. Et c'était vraiment la volonté du Conseil d'aller dans cette direction-là.
Alors, j'ai le goût de poser à Mireille Dassou une question un peu plus, peut-être difficile d'une certaine manière, mais quand vous lisez à l'intérieur de la déclaration des évêques une phrase semblable, « Nous avons ensemble le devoir d'écouter les femmes et les personnes victimes de violence », il me semble que c'est paradoxal avec ce qu'on vient de dire dans le segment précédent sur femmes décidées. On n'écoute pas beaucoup les femmes haïtiennes, en tout cas les évêques du Québec et du Canada. Vous n'avez pas cette impression-là ou c'est moi qui lis mal la déclaration?
Moi, je vais y aller en disant que cette phrase-là, en fait, devrait nous inspirer pour l'avenir et devrait être répétée, justement, jusqu'à temps qu'elle soit mise pleinement en application. Alors, je trouve ça beau, là, l'idée d'écouter les femmes, les personnes victimes de violence. Comme le disait Sabrina, moi, je pense que il y a quelque chose aussi de profondément chrétien dans l'idée de méditer le fait qu'il y a des personnes qui sont victimes de violences. Bon, dans le cas du Christ, c'est aller jusqu'à la mort sur la croix, c'est de la torture. Là. Donc, on en tant que chrétien, il y a la possibilité de garder les yeux ouverts par rapport à ce tragique-là, à ces souffrances-là, et ensuite se donner justement le devoir à la fois d'écouter, d'agir, de dénoncer. Bon, je pense qu'on va quand même dans la bonne direction. Je vois un pas dans la bonne direction. Et d'ailleurs, fait à souligner l'initiative de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec et de l'Église du Québec a fait les nouvelles même au Vatican. Alors, vous pouvez voir sur Vatican News qu'il y a un article consacré à cette déclaration. Alors, j'espère que ça va diffuser dans le monde et que la déclaration va en inspirer d'autres, peut-être au Canada et du côté de côté peut-être un peu plus conservateur.
Sabrina Di Matteo, un dernier mot là-dessus.
Oui, bref, simplement, inviter les gens à aller consulter le site évêque au pluriel, évêque catholique avec un S, point Québec, pour avoir accès non seulement à la déclaration en français et en anglais, mais nous avons aussi compilé différentes activités de réflexion et de commémoration partout au Québec. Et il y a aussi suggestion d'un rite de commémoration écuménique pour les personnes qui voudraient en organiser un.
Alors, rapidement, juste au plan ecclésiologique, c'est quand même fantastique. Habituellement, Vatican News aurait marqué les évêques du Québec, mais là, c'est bien écrit l'Église du Québec. Donc, ça nous dit quelque chose comme une co-responsabilité qui se traduit jusque dans le titre choisi.
Alors, je vous rappelle que cette semaine, il y a plusieurs événements pour commémorer le 30e anniversaire du 6 décembre 1989, au moment où un homme armé a assassiné 14 femmes et blessé 13 autres personnes à l'École polytechnique de Montréal. Et parmi ces événements de commémoration-là, il y a cette déclaration, ce souvenir pour mieux agir, signé par le Conseil Église et Société de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Alors, normalement, à ce moment-ci de l'émission, là, on a quelques secondes pour parler de sujets qui s'en viennent. Est-ce que je peux demander à mes gens de parler en moins de 30 secondes d'un événement? Y a-t-il quelque chose qu'il faut absolument voir? Une revue à lire?
Le plus récent numéro de la revue ce que l'hiver nous dit de nous, donc l'hiver à la fois comme vecteur de solidarité, mais aussi donc révélateur de nos fragilités.
Alors, ce que l'hiver dit de nous, relation.
Conférence religieuse canadienne, nouveau webzine qui va paraître en début de semaine prochaine, qui s'appelle Ad Vitam, donc à la vie, pour la vie, et j'en suis la rédactrice en chef, premier numéro sur les abus dans l'Église entre crise et espérance.
Bon, très bien. Alors, une autre parole forte du côté des congrégations religieuses. Alors, je vous rappelle que l'émission Foi et turbulence est produite par l'Institut pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation À Dieu va. Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans deux semaines, soit le mercredi 18 décembre. On vous y donne déjà rendez-vous. La semaine prochaine à l'émission, c'est un épisode en format magazine. Mathieu Lavigne va recevoir le père Oblat Ali Nameka. Il est originaire du Nigeria. Le père Nameka arrive sur la côte nord en 2014. Aujourd'hui, il est prêtre en alternance dans les communautés Innus, d'Ekwik et d'Ekwanchit et de Métimekouche, près de Shefferville. Merci à nos invités, Mireille Dastou, vous, Sabrina Di Matteo, Frédéric Barriot. Merci à Mathieu Lavigne, coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin à la régie. Ici François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Vous êtes à l'écoute de Foi et Turbulence.